Notre expert des réseaux sociaux, Nelly Brière. Bonjour, Nelly.
Bonjour, Bernard.
D'abord, tu vas nous parler d'un reportage du New York Times que j'ai lu en fin de semaine et que j'ai porté à ton attention sur la reconnaissance faciale qui est en train, franchement, de devenir un monstre.
Oui. En fait, je vais poser la question sur a-t-on vraiment une vie privée et de l'anonymat dans le futur, pour ne pas dire de plus en plus le présent?
Alors, parle-nous de cette entreprise qui s'appelle Clearview. Hein?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise-là?
Oui, en fait, elle a développé une technologie quand même assez impressionnante parce qu'elle est capable de relier toutes les informations publiques qui circulent à votre sujet ou qui sont sur le web à votre sujet à l'aide d'une simple photo. Puis attention, pas une photo bien prise là avec le regard qui s'adresse à la caméra. Là, ça peut être une photo où on voit votre visage partiellement, vous portez des lunettes ou vous avez même un chapeau. Donc, tiré à partir de caméras de surveillance, par exemple, on pourrait retrouver tout ce qui se trouve à votre sujet.
Et elle se trouve à votre sujet partout sur le web, là.
Oui, qui est public, évidemment, mais quand même. On ne sait pas toujours tout ce qui a été mis à notre sujet. Hein. Par exemple, on peut avoir des captations par des caméras qui se retrouvent en ligne ou quelqu'un qui aurait mis une photo de nous sans nous en parler et on n'est pas au courant. Et cette application-là jouit d'une base de 3 milliards d'images qui ont été récupérées sur des millions de sites, dont bien sûr Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et compagnie, en contrevenant souvent à leurs règles d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les photos tirées de ces applications-là, selon les règles des entreprises, mais en même temps, bon, est-ce que l'entreprise va vraiment faire une poursuite à ce sujet? Donc, ils ont 3 milliards d'images et ils font affaire avec des autorités, surtout aux États-Unis, là, entre autres le FBI, qui ne jouissait que de 640 millions d'images dans sa banque de données à elle, parce qu'il y a des restrictions pour les autorités. Là, ils ne peuvent qu'utiliser, par exemple, que des photos provenant de vos licences, de vos permis de conduire, plutôt, ou des photos qui sont proprement dites, qui sont prises dans le cadre d'une enquête, ou etc. Ils ne peuvent pas aller sur Facebook, prendre vos photos pour les utiliser, puis vous trouver, là.
OK. Sauf qu'avec eux autres, ils n'ont pas le droit. Eux autres, ils n'ont pas le droit, mais ils ont le droit de faire affaire avec Clearview.
C'est ça.
Qui, eux autres, l'ont fait. Et donc, ils contournent la loi. Ils font indirectement ce qu'ils n'ont pas le droit de faire directement.
Un peu. Et attendez, ça va plus loin que ça. Parce qu'en plus, cette application-là, cette technologie-là, elle est encodée pour pouvoir être utilisée avec des lunettes de réalité augmentée, Bernard. Et ça implique que si, par exemple, la compagnie décide de commercialiser sa technologie avec des lunettes, vous, si vous les portez, vous pourriez vous promener dans le métro, dans la rue, et toutes les gens que vous rencontrez, par exemple, trouver quelqu'un de votre goût, vous pouvez aller chercher des informations qui circulent sur cette personne-là, son sujet. Ça peut être son adresse, son numéro de téléphone. Oui. Et si c'est un policier qui porte ces lunettes-là, il va pouvoir reconnaître, par exemple, des manifestants, des opposants, des activistes, etc.
Attends, parce que tu vas vite. Toi, t'es dans ta bulle. Nous autres, on essaie d'y entrer, là.
Oui.
Tu me dis, on se promène avec une lunette
oui.
qui, dans le fond, nous permet d'aller chercher le dossier de la personne qu'on regarde avec la lunette.
Oui, parce que la technologie de cette application-là, comme je vous disais, avec une simple image d'une personne, est capable de relier tout ce qui existe de public sur l'Internet de cette personne-là.
C'est capotant.
Puis en quelques instants, et d'ailleurs, juste pour vous dire, là, ça a été testé dans les premiers temps avec les autorités de l'État de l'Indiana aux États-Unis, OK? Et suite à une bataille avec qui impliquait des coups de feu là, dans un parc, ils ont été capables de retrouver un des participants à cette bataille-là, des criminels dans le fond, avec quelqu'un qui avait pris une vidéo iPhone de cette personne-là dans un autre contexte, OK, en 20 minutes, parce que cette personne-là n'avait pas de permis de conduire, donc elle n'existait pas dans la banque de données du FBI ou du poste de police en question. Et là, en 20 minutes, ils ont été capables de retrouver la personne. Donc, c'est d'une efficacité incroyable. Là. Je veux dire, on peut vous retrouver.
Bon, là, il y a quelqu'un qui m'écrit, ça ressemble à Robocop. C'est vrai?
Oui, oui, C'est vrai. Ben oui, on s'en va vers la dystopie. Puis ça, c'est super intéressant.
La quoi? La quoi? La
dystopie.
La dystopie.
La dystopie, c'est un peu... C'est quand on prend une technologie, par exemple, dans un récit ou dans un film, et qu'on l'amène dans le plus loin qu'elle peut aller, sans réglementation, sans y avoir réfléchi. Souvent, comme par exemple les séries Black Mirror ou tous les films de science-fiction, on appelle une dystopie quand c'est très sombre, quand c'est pas très joyeux, là, quand c'est pas très optimiste, là, comme...
D'accord.
Robocop, c'était pas enviable, là, c'est pas le monde dont on rêve.
Quelqu'un me dit comment Iron Man et la technologie Stark.
Oui, c'est ça. Ben, c'est exactement, il y a plein de science-fiction à laquelle on peut faire référence. Ne serait-ce que le livre Big Brother, le 1984 avec Big Brother, là, parce que, vous savez, en Chine, cette technologie de reconnaissance faciale-là, elle est déjà utilisée et intégrée au service de surveillance de caméras. Et savez-vous ce qu'ils font, eux? Ils font du repérage des membres de la minorité musulmane ouïghour avec des caractéristiques physiques typique de ces gens issus de cette minorité-là.
Wow.
Alors, on peut aller... oui, fait que là...
Ça, c'est du vrai profilage. Ça, c'est du vrai profilage, là. Très actif,
c'est
là.
Puis pas seulement ça, il faut pas oublier qu'on peut avoir un sosie dans la vie, on peut se retrouver vraiment dans des conditions non voulues. Il peut y avoir des erreurs, parce que là, la compagnie revendique 75% de réussite pour justement relier ces informations-là à la bonne photo. Mais là, c'est la compagnie qui dit ça d'elle-même, là. Hein, on n'a pas de tests qui viennent d'un tiers.
Mais c'est qui est propriétaire de ça, cette compagnie-là? Qui c'est qui est derrière ça?
Il y a plus, exactement, c'est intéressant que vous posiez la question parce que, il y a plusieurs investisseurs, c'est toujours complexe, les compagnies, c'est pas une seule personne là, qui la possède ou une entreprise qui est derrière. Il y a plusieurs investisseurs, dont une personne qui travaille chez Facebook. Alors, donc, il y a comme des conflits d'intérêts, des questions à se poser par rapport à ça parce que justement, comme on a été prendre des photos issues de la banque de données, entre autres de Facebook et de toutes les autres compagnies, là, et que là, il y a des gens qui travaillent pour la compagnie. On peut se poser la question, est-ce que, justement, ils peuvent faire pression à l'interne pour que les compagnies qui se font prendre leurs photos ne protègent pas assez, justement? Parce que c'est encore une question de protection de vos clients, d'une certaine manière. Parce que quand vous êtes une entreprise qui héberge des photos de vos clients, vous devez de les protéger. Là, après ça, le problème, c'est que les gens décident de les mettre de manière publique. Fait qu'on peut pas... disons, empêcher l'accès. C'est vous-même, le client, qui avait décidé que votre photo sur Facebook, le monde entier pouvait l'avoir. Cette technologie-là, elle était capable de faire un algorithme mathématique. Elle prend votre visage.
Oui, oui.
Puis elle fait une espèce de calcul pour être capable de vous identifier de façon spécifique.
Ça veut dire, là, Nelly, d'abord, on a passé vite là-dessus, mais le risque d'erreur existe. C'est vrai que parfois... Mm-hmm. Il y a quelqu'un sur Terre qui nous ressemble beaucoup. Et donc, tu pourrais te retrouver à un moment donné pris dans les mailles des services de sécurité, puis tu n'as absolument rien à voir avec le crime qui est reproché à ton sosie, on va le dire de même. OK, première affaire. Mais deuxième affaire, on parle d'une application ici, là. OK, on parle d'une application qui a été développée, OK, par la compagnie Clearview, là. Bon, ça, est-ce que ça veut dire que par exemple, mettons, moi, j'ai voyagé un peu, là. Mettons, j'ai voyagé un peu. Fait que tu te promènes dans les aéroports. Il y a des caméras partout dans les aéroports. Dans certaines villes comme Londres, t'as des caméras partout. Donc, ça voudrait dire que un service de sécurité qui a cette application-là pourrait, à partir d'une seule photo, mettons ma photo de passeport, savoir où est-ce que je suis allé dans les dernières années. Où est-ce que mon visage a été pris en photo, entre guillemets, dans les villes ou les pays que j'ai visités, là? C'est ça que tu es en train de m'expliquer,
oui,
là.
Tout à fait. Puis en plus, ça fait débat tout ça, là, en ce moment, on s'entend aux États-Unis, parce que près de 600 services de police qui utilisent cette application-là actuellement, en plus du FBI. Il y a quand même San Francisco qui a banni Clearview AI en mai passé. Sauf pour les aéroports. Parce que là, c'est ça. Là, on continue d'utiliser cette application-là dans les aéroports. Puis comme vous le dites, c'est ça. On vous retrouve partout. Puis ça, vous m'amenez sur un autre sujet qui concerne notre vie privée par rapport à ça, Bernard, parce que c'est sorti cette semaine. Il y a aussi le commissariat à la protection de nos données personnelles, là, au Canada, qui a révélé que on a des enjeux avec même les agents frontaliers du Canada qui vont trop loin dans leurs fouilles. C'est comme si en ce moment, tout le monde va trop loin là-dedans parce que les agents frontaliers des douanes du Canada, en fait, Ils vont utiliser, vont fouiller vos appareils électroniques. Normalement, ils ont des règles, ils n'ont pas le droit d'aller dans vos réseaux sociaux, par exemple, ou de naviguer sur Internet avec vos appareils. Ils doivent le mettre en mode avion. Mais il y aurait eu 6 plaintes, entre autres, qui ont eu raison et qui ont prouvé que c'est pas le cas. Donc, les agents des douanes du Canada sont allés vérifier, par exemple, toutes vos interactions bancaires sur votre application de banque.
Attends un peu, là, j'arrive aux douanes, ils me prennent, ils me saisissent, je suis contrôlé, ils me demandent mon téléphone cellulaire, ils s'en vont dans une pièce. Légalement, ils sont supposés se mettre en mode avion, justement, pour ne pas avoir accès à des informations confidentielles. Mais tu nous dis que le commissaire à la vie privée s'est rendu compte qu'il y a eu des douaniers qui ont, dans le fond, pénétré dans les téléphones intelligents et se sont servis du téléphone?
Oui, ils sont allés voir des relevés bancaires, ils ont pris des photos de contenu de téléphone. Il y a aussi relevé un problème d'absence de notes quand c'est le cas, parce qu'il y a quand même 26 000 voyageurs au Canada dans les deux dernières années qui se sont fait investiguer leurs appareils numériques. Et là-dedans, il y a un manque important de notes sur comment ça a été fait. Il y a eu du déchiquetage. Donc, c'est problématique et le commissaire demande d'encadrer davantage le travail des agents frontaliers. Puis là, moi, je vous dis ça là, parce qu'au Canada, on a quand même des lois qui essayent de protéger notre vie privée. On comprend que des fois, quand c'est pas respecté, il n'y a pas tellement de conséquences, mais il y a quand même des lois. Puis, si vous allez aux États-Unis, Bernard, ils peuvent carrément vous exiger votre mot de passe pour rentrer sur votre compte.
Mais
Facebook,
c'est ça que j'allais te demander. J'allais te demander à quoi ça sert de me demander mon téléphone intelligent si légalement ils sont supposés de se mettre en mode avion. S'ils se mettent en mode avion, bon, ils peuvent avoir accès à mes notes, ils peuvent avoir accès.
C'est le contenu de votre téléphone, parce que c'est en fait une loi qui date de 1867 là, qui permet d'investiguer toute la marchandise que vous transportez d'un endroit à l'autre. Fait que, tu sais, il pourrait y avoir des photos du matériel illicite en lien avec l'exploitation sexuelle des mineurs.
OK, fait qu'ils iraient dans ma... OK, c'est vrai, ils ont accès à mes photos, même si je suis en mode avion, bien entendu.
Sauf si c'est sur le cloud. Mais ça devient un problème important, ça, parce que... Tout ce dont on parle depuis le début de ma chronique, là, en fait, ça concerne jusqu'où on peut aller pour fouiller. Parce que l'agence mentionne qu'elle a quand même été capable d'attraper, dans 39 % des cas, des gens qui ont été investigués, ils ont mis à jour des infractions relatives aux douanes. Blanchiment d'argent, bien prohibé, bien non déclaré, etc. Donc, ils soutiennent que ça a un taux de succès quand même important et que ça sert. Sauf que, jusqu'où on est prêt à perdre notre vie privée en tant qu'individu afin d'assurer une sécurité? Puis c'est qu'est-ce qu'on considère comme étant important en termes de sécurité? Justement, des biens non déclarés, ça vaut la peine? Dans le cas de l'exploitation sexuelle de mineurs, on peut comprendre qu'on veut attraper ces gens-là, blanchiment d'argent, tout ça. Sauf que, est-ce qu'on est prêt à ce que des agents frontaliers puissent aller voir nos conversations sur Messenger dans les 10 dernières années, aller voir nos relevés bancaires comme ça, sur notre cloud, puis aller voir toutes les photos qu'on a prises dans les dernières années, finalement.
Là, j'ai plus de temps, là, mais il y a Raymond qui me demande, il dit, est-ce que, moi, je suis membre d'aucun réseau social, me dit Raymond, OK? Je suis sur aucun réseau. Est-ce que je pourrais quand même faire partie de la banque de Clearview? La réponse est oui. Dès que tu as une photo de toi qui a été publiée d'une manière ou d'une autre sur Internet ou qui se retrouve, par exemple, dans une banque de données d'un aéroport où vous êtes allé, vous pourriez être dans la banque Clearview, exact?
Mais même pas pire que ça, Bernard, parce que si, par exemple, un agent se promenait avec ses fameuses lunettes puis qu'il vous rencontre, il a votre image, il vous voit, une simple caméra de surveillance pourrait aller chercher des informations sur vous. Et vous, si vous avez une moindre photo qui vous relie à votre nom ou à votre adresse. Puis ça, des fois, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Vous pouvez vous être retrouvé dans un parc où il y a quelqu'un qui vous a étiqueté sans le savoir. Vous êtes peut-être sur une photo de classe plusieurs années que quelqu'un a mis en ligne et il a mis votre nom. C'est extrêmement difficile de faire une veille sur tout ce qui circule à notre sujet en termes d'image.
J'ai vraiment fini. Mais est-ce qu'au Canada, c'est permis d'utiliser l'application Clearview? Est-ce que les...
Mais selon cet article du New York Times, semblerait que des autorités canadiennes sont en train d'envisager comment ils pourraient utiliser les services de Clearview AI. Fait que je pense que ça va être important que nos élus se penchent là-dessus.
Encore une fois, le nombre de chroniques qui se concluent, de tes chroniques qui se concluent en disant aux élus, au gouvernement, aux politiciens, politiciennes. Oui. Il va falloir s'en occuper avant que ça nous rattrape dans le détour.
Nelly... Il aurait fallu commencer il y a des années, mais bon, mais là, oui, tout à fait.
Nelly Brière, merci beaucoup. On se reparle mercredi prochain. Très bien, très bien. On lâche pas après la pause.